France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20. Le gouvernement a désormais tous les syndicats contre lui et notamment le premier d'entre eux, la CFDT, qui rejoint les cortèges. Elle appelle à manifester mardi prochain contre la réforme des retraites dévoilée hier par le Premier ministre. Bonjour Frédéric Sève.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire national à la CFDT, chargé justement de cette réforme des retraites. Vous avez l'impression que le gouvernement s'est moqué de vous? Vous vous sentez trahi?
Trahi? Pas forcément, mais disons que le gouvernement a franchi une ligne rouge qu'on a pourtant répétée, martelée depuis 2 ans que les négociations ont commencé. Nous sommes opposés à toute mesure paramétrique, toute mesure d'économie. D'ailleurs, la feuille de route du haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, disait bien au début, c'est pas une réforme pour faire des économies, c'est une réforme pour refonder le système de retraite. Dès lors qu'on franchit cette ligne rouge, la réaction de la CFDT est normale.
Mais plus que les autres syndicats, vous avez essayé de négocier, de discuter jusqu'au bout. Vous n'avez pas appelé à manifester ces derniers jours. Vous le regrettez ?
Non, pas du tout, puisque effectivement la discussion, tant que la discussion est ouverte, on doit s'y investir. Effectivement, le projet de réforme des retraites nous va bien, à la différence d'autres.
Donc c'est, j'allais oui, dire, c'est même parce que un système universel, ça nous convient.
Oui, ça nous convient. C'est dans nos textes de congrès depuis 10 ans au moins. Donc on est toujours partant pour construire ce système universel. Simplement, y adjoindre une réforme paramétrique dont on conteste et les modalités et le bien fondé, ça ne va pas.
Pourquoi cet âge pivot de 64 ans est-il tant un problème à vos yeux?
Dans l'âge pivot, il y a deux choses. Il y a d'abord, j'insiste, une mesure paramétrique, une mesure d'économie. C'est-à-dire que l'âge pivot n'est pas fait pour faire plaisir, pour faire joli. C'est d'abord fait pour décaler l'âge de la retraite plus rapidement qu'il ne se décale déjà aujourd'hui avec la loterie.
Parce que finalement, on n'en est pas loin quand même de ces 64 ans.
On n'en est pas très loin. On en est assez loin aujourd'hui, mais on n'en sera pas très loin longtemps. C'est bien, quand on entend le Premier ministre ou certains d'ailleurs personnes influentes dire il va falloir travailler plus longtemps, je rappelle que l'âge de la retraite augmente aujourd'hui. Donc la question, d'augmenter l'âge, c'est d'augmenter encore plus vite, encore plus fort. Les salariés font déjà des efforts, on leur rajoute de façon indue pour nous.
Mais en même temps, on entre plus tard, de plus en plus tard sur le marché du travail, donc finalement on s'en rapproche naturellement de ces 64 ans. Ça vaut un casus belli
Dans la mesure où c'est pas nécessaire d'aller plus loin, oui. Hein. Et en plus, deuxième aspect, cet âge d'équilibre n'est pas juste en soi. C'est-à-dire que c'est pas la bonne méthode pour agir sur l'âge. C'est-à-dire, sans rentrer dans les détails, ça va profiter à certains, ça va pénaliser d'autres, et ça va, pénaliser d'abord ceux qui ont commencé à travailler tôt, d'abord ceux qui ont généralement les retraites les plus basses. Donc c'est un peu de la redistribution à l'envers d'ailleurs de ce que voulait faire la réforme.
Et pourtant, le Premier ministre l'a bien dit hier, il dit « l'âge légal ne bouge pas, c'est toujours 62, si on part avant, on aura un peu moins, si on part après, on aura un bonus ».
Oui, mais ça, c'est le principe du système de retraite. Le problème, c'est que le Premier ministre rajoute une louche, dans les efforts qui sont déjà consentis par les Français.
Et pourtant, il dit que vous aurez votre mot à dire, puisque vous serez associé à la future gouvernance de ce nouveau système, vous, les syndicats.
Alors, il nous dit ça, mais en même temps, il nous dit que l'âge pivot devra entrer en vigueur dès 2022, devra atteindre 64 ans en 2027. Il nous laisse juste le choix de la vitesse à laquelle on passera du point A au point B. Donc je veux bien je suis même flatté que le Premier ministre nous fasse confiance pour diriger, pour piloter un système de retraite, mais quand on nous fait confiance complètement.
Donc
on ne nous
dit
pas où est-ce qu'on va, comment on y va, on ne nous interdit pas... Bref, c'est une gouvernance extrêmement contrainte qu'il nous a décrit hier.
Donc quand il dit ma porte est ouverte, ma main est tendue, c'est quoi, c'est du pipeau? Vous n'y croyez pas?
Non, mais j'allais dire, nous sommes aussi ouverts à la discussion. Si on revient sur cette, mesure que j'insiste, qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas juste, si on revient là-dessus, nous, les choses redémarrent. Encore une fois, le système de retraite universel, nous sommes partisans. Il y a un deuxième point que je voudrais souligner, parce qu'il n'y a pas cette histoire d'âge pivot. Il nous manque, nous, une vraie prise en compte de la pénibilité du travail. C'est aussi le paradoxe de la déclaration du Premier ministre, c'est qu'on doit travailler plus longtemps, mais en même temps, il ne prête pas attention, il ne répond pas à la CFDT quand nous disons, mais il y a des gens qui aujourd'hui sont empêchés de travailler longtemps, parce qu'ils ont un travail insoutenable, un travail pénible. Donc,
Nous, il faudrait rajouter des critères de pénibilité ou donner plus de bonus à ceux qui ont des métiers pénibles?
C'est surtout rajouter des critères de pénibilité, même s'il y a plein d'autres discussions, mais fondamentalement, le cœur de la pénibilité est sorti du compte pénibilité en 2017. Quand je dis le cœur de la pénibilité, c'est à ceux qui concernent le plus de monde, et c'est les pénibilités liées aux parts de charges lourdes, aux postures pénibles, à l'exposition au risque chimique. Voilà le cœur du problème de la pénibilité. Or ça, on a décidé en 2017 de ne pas le traiter, de jeter un voile pudique dessus. Ben non, on peut pas.
Qu'est-ce qui trouve grâce à vos yeux dans cette réforme?
Ben, le principe du système universel est intéressant. La réforme des droits familiaux va dans le bon sens. Réforme des droits familiaux, réforme de la réversion aussi. Il y a un sujet qui est esquissé, c'est la retraite à ce qu'on appelle la retraite progressive, la possibilité de partir progressivement à la retraite, esquissé mais pas encore complètement fouillé. Il y a aussi, après, il y a des chantiers liés à la transition, hein, comment est-ce qu'on passe du système à l'autre. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Et encore une fois, le principe est fondamental. Ça a l'air de rien, ça a l'air de rhétorique, mais construire un système où tout le monde est solidaire de la retraite de tout le monde, ce serait quelque chose d'extrêmement précieux en France, où depuis des dizaines d'années, dans les repas de famille, on s'envoie à la figure que chacun a le système de retraite le plus avantageux, le régime plus avantageux que l'autre. Ça, c'est fondamental. Mais c'est ce chantier qu'on veut reprendre, c'est ce chantier qu'on veut mener à bout.
Est-ce que vous, qui défendez donc un système universel, vous comprenez qu'on maintienne quand même quelques dérogations pour certains métiers, les policiers, les pompiers, les douaniers, les contrôleurs aériens?
C'est tout à fait logique, si vous voulez. Le problème, c'est pas de savoir est-ce que tout le monde a exactement la même retraite, c'est qui finance quoi. Le système universel de demain doit financer les droits universels accessibles à tous, la pénibilité en fait partie. Après, rien n'empêche un employeur, pour des raisons particulières qui lui sont propres, de financer un droit particulier. C'est parfaitement logique que l'État dise, ben, mes policiers, mes militaires ont des conditions d'exercice particulières ou des conditions de recrutement particulières. Donc moi, État, je finance un avantage particulier. C'est parfaitement logique. Tant que chacun finance ce qui lui est dû, le système universel finance l'universel, les employeurs financent des choses particulières. Dans la route, par exemple, les employeurs financent un départ à la retraite anticipé des chauffeurs routiers. Ben, c'est parfaitement cohérent, mais c'est la branche et l'État qui le finance, ça n'est pas la caisse de retraite.
Au-delà de toutes les considérations de justice sociale, d'égalité, etc., est-ce qu'au moins, d'un point de vue strictement économique, cette réforme est efficace? Est-ce qu'elle résout le problème du financement des retraites?
Le problème de financement des retraites, il se pose dans la durée. C'est-à-dire que les conditions d'un jour ne sont pas les conditions du lendemain. Ce qu'il faut dire, c'est que les dépenses, dans les projections qu'on fait, que fait le Conseil d'orientation des retraites, les dépenses de retraite, contrairement à ce qui s'est passé les 30 dernières années, n'augmenteront à l'avenir pas plus vite que la richesse nationale. Ça veut dire que, a priori, on a les moyens de financer nos retraites sans se serrer la ceinture. Après, il faut ajuster les canaux de financement, et puis réfléchir éventuellement quel argent on veut consacrer à la retraite. Mais ça, c'est un débat qu'on doit mener constamment. C'est pas à nous, en 2019, de décider, par exemple, ce que voudront les Français en 2040 ou 2050.
Frédéric Sève, secrétaire national de la CFDT chargé de cette réforme des retraites. Vous étiez l'invité du 5-7.